Chapitre 17. La famille Pitou, le départ. Pendant la route, tout effrayait Gilbert. Le bruit des voitures qui suivaient ou dépassaient la sienne, les plaintes du vent dans les arbres desséchés lui semblaient être une poursuite organisée ou des cris poussés par ceux à qui l'enfant avait été pris. Cependant, rien ne le menaçait. Le postillon fit bravement son devoir et les deux chevaux arrivèrent fumant à Dampmartin à l'heure que Gilbert avait fixée, c'est-à-dire avant les premières clartés du jour. Gilbert donna son demi-louis, changea de chevaux et de postillon et la course recommença. Pendant toute la première partie de la route, l'enfant, soigneusement abrité par la couverture et garanti par Gilbert lui-même, n'avait pas senti les atteintes du froid et n'avait point poussé un seul cri. Sitôt que le jour parut, apercevant au loin la campagne, Gilbert se sentit plus courageux, et pour couvrir les plaintes que l'enfant commençait à faire entendre, il entama une de ses éternelles chansons, comme il en chantait à Tavernet au retour de ses chasses. Le cri de l'essieu, les soupentes, le bruit de ferraille de toute la voiture, les grelots des chevaux, lui firent un accompagnement diabolique dont le postillon augmenta lui-même l'intensité en mêlant au refrain de Gilbert les éclats d'une bourbonnaise, un tant soit peu séditieuse. Il en résulta que ce dernier conducteur ne soupçonna même pas que Gilbert emportait un enfant dans le cabriolet. Il arrêta ses chevaux en avant de Villers-Cotterêts, reçut, comme on en était convenu, le prix du voyage, plus un écu de 6 livres, et Gilbert, reprenant son fardeau, soigneusement enfermé par les plis de la couverture, entonnant le plus sérieusement possible sa chanson, s'éloigna subitement, enjamba un fossé et disparut dans un sentier jonché de feuilles qui descendait en tournoyant à gauche de la route vers le village d'Aramont. Le temps s'était mis au froid, plus de neige depuis quelques heures, un terrain ferme et hérissé de broussailles aux longs filaments, aux touffes épineuses. Au-dessus se dessinaient, sans feuilles et attristés, les arbres de la forêt, par les branchages desquels brillaient l'azur pâle d'un ciel encore embrumé. L'air si vif, les parfums des essences de chêne, les perles de glace suspendues aux extrémités des branches, toute cette poésie frappèrent vivement l'imagination du jeune homme. Il marcha d'un pas rapide et fier par la petite ravine, sans broncher, sans chercher, car il interrogeait au milieu des bouquets d'arbres le clocher du hameau et la fumée bleue des cheminées qui filtraient parmi le treillis grisâtre des branches. Au bout d'une demi-heure, il franchissait un ruisseau bordé de lierre et de cressons jaunis et demandait à la première cabane, aux enfants d'un laboureur, de le conduire chez Madeleine Pitou. Muet et attentif, sans être hébété ni immobile comme d'autres paysans, les enfants se levèrent et, regardant l'étranger dans les yeux, ils le conduisirent, se tenant par la main, jusqu'à une chaumière assez grande, d'assez bonne apparence, et située sur le bord du ruisseau qui longeait la plupart des maisons du village. Ce ruisseau roulait, ses eaux limpides et un peu grossies par les premières fontes de neige. Un pont de bois, c'est-à-dire une grosse planche, joignait la route au degré de terre qui conduisait à la maison. L'un des enfants, ses guides, montra de la tête à Gilbert que là demeurait Madeleine Pitou. « Là !» répéta Gilbert. L'enfant baissa le menton sans articuler un mot. « Madeleine Pitou ?» demanda encore une fois Gilbert à l'enfant, et celui-ci, ayant réitéré sa muette affirmation, Gilbert franchit le petit pont et vint pousser la porte de la chaumière, tandis que les enfants, qui s'étaient repris la main, regardaient de toute leur force ce que venait faire chez Madeleine Pitou, ce beau monsieur en habit brun avec des souliers à boucles. Du reste, Gilbert n'avait encore aperçu dans le village d'autres créatures vivantes que ses enfants. Aramont était bien réellement le désert tant souhaité. Aussitôt que la porte eut été ouverte, un spectacle plein de charme pour tout le monde en général et pour un apprenti philosophe en particulier frappa les regards de Gilbert. Une robuste paysanne allaitait un bel enfant de quelques mois, tandis que, agenouillé devant elle, un autre enfant, un vigoureux gars de 4 à 5 ans, faisait à haute voix une prière. Dans un coin de la cheminée, près d'une fenêtre, ou plutôt d'un trou percé dans la muraille et fermé par une vitre, une autre paysanne de 35 à 36 ans filait du lin, son rouet à droite d'elle, un tabouret de bois sous ses pieds, un bon gros chien caniche sur ce tabouret. Le chien, apercevant Gilbert, aboya d'une façon assez hospitalière et civile, tout juste ce qu'il fallait pour témoigner de sa vigilance. L'enfant en prière se retourna, coupant la phrase du pater, et les deux femmes poussèrent une sorte d'exclamation qui tenait le milieu entre la surprise et la joie. Gilbert commença par sourire à la nourrice. « Bonne dame Madeleine, dit-il, je vous salue. » La paysanne fit un bond. « Monsieur, c'est mon nom, dit-elle. » Comme vous voyez, mais ne vous interrompez pas, je vous prie. En effet, au lieu d'un nourrisson que vous avez, vous allez en avoir deux. Et il déposa sur le berceau grossier de l'enfant campagnard le petit enfant citadin qu'il avait apporté. Oh, qu'il est mignon! S'écria la paysanne qui filait. Oui, sœur Angélique, bien mignon, dit Madeleine. Madame est votre sœur? Demanda Gilbert en désignant la fileuse. Ma sœur, oui, monsieur, répliqua Madeleine, la sœur de mon homme. Oui, ma tante Gélique, murmura d'une voix de basse-taille le marmot qui se mêlait à la conversation sans s'être relevé. Tais-toi, ange, tais-toi, dit la mère, tu interromps monsieur. Ce que j'ai à vous proposer est bien simple, bonne dame. L'enfant que voici est fils d'un fermier de mon maître, un fermier ruiné. Mon maître, parrain de cet enfant, veut qu'il soit élevé à la campagne et qu'il devienne un bon laboureur, bonne santé, bonne mœurs. Voulez-vous vous charger de cet enfant? Mais monsieur, il est né hier et n'a pas encore eu de nourrice, interrompit Gilbert. D'ailleurs, c'est le nourrisson dont a dû vous parler maître Niquet d'Abellion à Villers-Cotterêts. Madeleine saisit aussitôt l'enfant et lui donna le sein avec une impétuosité généreuse qui attendrit profondément Gilbert. On ne m'avait pas trompé, dit-il, vous êtes une brave femme. Je vous confie donc cet enfant au nom de mon maître. Je vois qu'il sera heureux ici, et je veux qu'il apporte en cette chaumière un rêve de bonheur en échange de celui qu'il y trouvera. Combien avez-vous pris par mois aux enfants de maître Niquet de Villers-Cotterêts? 12 livres, monsieur, mais monsieur Niquet est riche et il ajoutait bien, par-ci, par-là, quelques livres pour le sucre et l'entretien. Mère Madeleine, dit Gilbert avec fierté, l'enfant que voici vous paiera 20 livres par mois, ce qui fait 240 livres par an. Jésus! S'écria Madeleine, merci, monsieur! Voici la première année, dit Gilbert, en étalant sur la table 10 beaux louis qui firent ouvrir de grands yeux aux deux femmes et sur lesquels le petit ange Pitou allongea sa main dévastatrice. Mais, monsieur, si l'enfant ne vivait pas, objecta timidement la nourrice. Ce serait un grand malheur, un malheur qui n'arrivera point, dit Gilbert. Voilà donc les mois de nourrice réglés. Vous êtes satisfaite? Oh oui, monsieur. Bon, passons au paiement d'une pension pour les autres années. L'enfant nous resterait? Probablement. En ce cas, monsieur, c'est nous qui serions ses père et mère. Gilbert pâlit. Oui, dit-il d'une voix étouffée. Alors, monsieur, il est donc abandonné, ce pauvre petit? Gilbert ne s'attendait pas à cette émotion, à ces questions. Il se remit pourtant. Je ne vous ai pas tout dit, ajouta-t-il, le pauvre père est mort de douleur. Les deux bonnes femmes joignirent les mains avec expression. Et la mère? Demanda Angélique. Oh, la mère, répliqua Gilbert en respirant péniblement. Jamais son enfant, né ou à naître, ne devait compter sur elle. Ils en étaient là quand le père Pitou rentra des champs, l'air calme et joyeux. C'était une de ces natures épaisses et honnêtes, bourrées de douceur et de santé, comme les a peintes Greuze dans ses bons tableaux. Quelques mots le mirent au courant. Il comprenait d'ailleurs par amour-propre les choses, surtout celles qu'il ne comprenait pas. Gilbert expliqua que la pension de l'enfant devait être payée jusqu'à ce qu'il fût devenu un homme et capable de vivre seul avec l'aide de sa raison et de ses bras. Soit, dit Pitou, je crois que nous aimerons cet enfant, car il est mignon. Oh, lui aussi, dirent Angélique et Madeleine, il le trouve comme nous. Venez donc avec moi, je vous prie, chez maître Niquet. Je déposerai chez lui l'argent nécessaire afin que vous soyez content et que l'enfant puisse être heureux. Tout de suite, monsieur, répliqua Pitou père, et il se leva. Alors Gilbert prit congé des bonnes femmes et s'approcha du berceau dans lequel on avait déjà placé le nouveau-né au détriment de l'enfant de la maison. Il se pencha sur le berceau d'un air sombre et, pour la première fois, regardant le visage de son fils, il s'aperçut qu'il ressemblait à André. Cette vue lui brisa le cœur. Il fut obligé de s'enfoncer les ongles dans la chair pour comprimer une larme qui montait de ce cœur blessé à sa paupière. Il déposa un baiser simple, timide, tremblant même sur la joue fraîche du nouveau-né et recula en chancelant. Le père Pitou était déjà sur le seuil, un bâton ferré en main, sa belle veste sur le dos en sautoir. Gilbert donna un demi-louis au gros ange Pitou qui rôdait entre ses jambes, et les deux femmes lui demandèrent l'honneur de l'embrasser avec la touchante familiarité des campagnes. Tant d'émotions avaient accablé ce père de 18 ans qu'un peu plus il y succombait. Pâle, nerveux, il commençait à perdre la tête. « Partons, dit-il à Pitou. « À vos souhaits, monsieur, répliqua le paysan en ouvrant la marche, et ils partirent en effet. Tout à coup, Madeleine se mit à crier du seuil. « Monsieur, monsieur !»« Qu'y a-t-il ? » dit Gilbert. « son nom, comment voulez-vous qu'on le nomme ?»« Il s'appelle Gilbert, » répliqua le jeune homme avec un mâle orgueil. Ce fut chez le tabellion une affaire bien promptement réglée. Gilbert déposa, sous son nom, une somme de 20 000 moins quelques 100 livres destinée à subvenir aux frais d'éducation et d'entretien de l'enfant, comme aussi à lui former un établissement de laboureur lorsqu'il aurait atteint l'âge d'homme. Gilbert régla éducation et entretien à la somme de 500 livres par an pendant 15 ans et décida que le reste de l'argent serait attribué à une dot quelconque ou à un achat d'établissement ou de terre. Ayant ainsi pensé à l'enfant, Gilbert pensa au nourricier. Il voulut que ces 2 400 livres fussent donnés au Pitou par l'enfant dès qu'il aurait atteint 18 ans. Jusque-là, maître Niquet ne devait fournir les sommes annuelles que jusqu'à concurrence de 500 livres. Maître Niquet devait jouir de l'intérêt de l'argent pour fruit de ses peines. Gilbert se fit donner un reçu en bonne forme, de l'argent par Niquet, de l'enfant par Pitou. Pitou ayant contrôlé la signature de Niquet pour la somme, Niquet celle de Pitou pour l'enfant, en sorte qu'il put partir vers l'heure de midi, laissant Niquet dans l'admiration de cette sagesse prématurée, Pitou dans la jubilation d'une fortune si rapide. Aux confins du village d'Aramont, Gilbert crut qu'il se séparait du monde entier. Rien pour lui n'avait plus ni signification ni promesse. Il venait de divorcer avec la vie insouciante du jeune homme et d'accomplir une de ces actions sérieuses que les hommes pouvaient appeler un crime, que Dieu pouvait punir d'un châtiment sévère. Toutefois, confiant en ses propres idées et en ses propres forces, Gilbert eut le courage de s'arracher des bras de maître Niquet qu'il avait accompagné, qu'il avait pris dans une amitié vive et qui le tenait parmi les 1000 séductions. Mais l'esprit est capricieux, la nature humaine est sujette aux faiblesses. Plus un homme a de volonté, de ressort spontanément, plus vite lancé dans l'exécution des entreprises, il mesure la distance qui le sépare de son premier pas. C'est alors que s'inquiètent les meilleurs courages, c'est alors qu'ils se disent, comme César, « Ai-je bien fait de passer le Rubicon ?» Gilbert, se trouvant sur la lisière de la forêt, tourna encore une fois ses regards sur les taillis aux cimes rougissantes qui lui cachaient tout Aramont excepté le clocher. Ce tableau ravissant de bonheur et de paix le plongea dans une rêverie pleine de regrets et de délices. Fou que je suis, se dit-il, où vais-je? Dieu ne se détourne-t-il pas avec colère dans la profondeur du ciel? Quoi, une idée s'est offerte à moi? Quoi, une circonstance a favorisé l'exécution de cette idée? Quoi, un homme suscité par Dieu pour causer le mal que j'ai fait a consenti à réparer ce mal et je me trouve aujourd'hui possesseur d'un trésor et de mon enfant. Ainsi, avec 10 000 livres, 10 000 autres étant réservés à l'enfant, je puis vivre ici comme un heureux cultivateur parmi ces bons villageois au sein de cette nature sublime et féconde. Je puis m'ensevelir à jamais dans une douce béatitude, travailler et penser, oublier le monde et m'en faire oublier. Je puis, bonheur immense, élever moi-même cet enfant et jouir ainsi de mon ouvrage. Mais pourquoi non? Ces bonnes chances ne sont-elles pas la compensation de toutes mes souffrances passées? Oh oui, je puis vivre ainsi. Oui, je puis me substituer dans le partage à cet enfant que, d'ailleurs, j'aurai élevé moi-même, gagnant ainsi l'argent qui sera donné à des mercenaires. Je puis avouer à Maître Niquet que je suis son père. Je puis tout. Et son cœur s'emplit peu à peu d'une joie indicible et d'un espoir qu'il n'avait pas encore savouré, même dans les hallucinations les plus riantes de ses rêves. Et tout à coup, le ver qui sommeillait au fond de ce beau fruit se réveilla et montra sa tête hideuse. C'était le remords, c'était la honte, c'était le malheur. « Je ne puis, » se dit Gilbert en pâlissant, « j'ai volé l'enfant à cette femme, comme je lui ai volé son honneur. J'ai volé l'argent à cet homme pour en faire, et je dis, une réparation. Je n'ai donc plus le droit de m'en faire du bonheur à moi-même. Je n'ai pas non plus le droit de garder l'enfant, puisqu'une autre ne l'aura pas. Il est à nous deux, cet enfant, ou à personne. » Et sur ces mots, douloureux comme des blessures, Gilbert se releva désespéré. Son regard exprima alors les plus sombres, les plus haineuses passions. « Soit, dit-il, je serai malheureux, soit je souffrirai, soit je manquerai de tous et de tout, mais le partage qu'il me fallait faire du bien, je veux le faire mal. Mon patrimoine désormais, c'est la vengeance et le malheur. Ne crains rien, André, je partagerai fidèlement avec toi. » Il se détourna sur la droite, et après s'être orienté par un moment de réflexion, il s'enfonça dans les bois, où il marcha tout le jour pour gagner la Normandie, qu'il avait supputé devoir rencontrer dans 4 jours de marche. Il possédait 9 livres et quelques sous. Son extérieur était honnête, sa figure calme et reposée. Un livre sous le bras, il ressemblait beaucoup à un étudiant de famille retournant dans la maison paternelle. Il prit l'habitude de marcher la nuit dans les beaux chemins et de dormir le jour dans les prairies aux rayons du soleil. 2 fois seulement, la brise l'incommoda si fort qu'il fut contraint d'entrer dans une chaumière où, sur une chaise, dans l'âtre, il dormit du meilleur de son cœur sans s'apercevoir que la nuit était venue. Il avait toujours une excuse et une destination. « Je vais à Rouen, disait-il, chez mon oncle, et je viens de Villers-Cotterêts. J'ai voulu, comme un jeune homme, faire la route à pied pour me distraire. » Nul soupçon de la part des paysans. Le livre était une contenance alors respectée. Si Gilbert voyait le doute voltiger sur quelques bouches plus pincées, il parlait d'un séminaire où l'entraînait sa vocation. C'était la déroute complète de toute mauvaise pensée. 8 jours se passèrent ainsi, pendant lesquels Gilbert vécut comme un paysan, dépensant 10 sous par jour et faisant 10 lieues de pays. Il arriva en effet à Rouen, et il n'eut plus besoin de se renseigner ni de chercher la route. Le livre qu'il portait était un exemplaire de la nouvelle Héloïse, richement reliée. Rousseau lui avait fait ce présent et écrit son nom sur la première feuille du livre. Gilbert, réduit à 4 livres 6 sous, déchira cette page qu'il garda précieusement et vendit l'ouvrage à un libraire qui lui en donna 3 livres. Ce fut ainsi que le jeune homme put arriver 3 autres jours après en vue du Havre et qu'il aperçut la mer au coucher du soleil. Ses souliers étaient dans un état peu convenable pour un jeune monsieur qui mettait coquettement le jour des bas de soie pour traverser les villes, mais Gilbert eut encore une idée. Il vendit ses bas de soie, ou plutôt les troqua, pour une paire de souliers irréprochables quant à la solidité. Pour l'élégance, nous n'en parlerons pas. Cette dernière nuit, il la passa dans Harfleur, logé, nourri pour 16 sous. Il mangea là des huîtres pour la première fois de sa vie. « Un mets de riche, se dit-il, pour le plus pauvre des hommes, tant il est vrai que Dieu n'a jamais fait que le bien, tandis que les hommes ont fait le mal, selon la maxime de Rousseau. » À 10 heures du matin, le 13 décembre, Gilbert entra dans le Havre et, du premier abord, aperçut l'Adonis, beau brick de 300 tonneaux, qui se balançait dans le bassin. Le port était désert, Gilbert s'y aventura par le moyen d'une passerelle. Un mousse s'approcha de lui pour l'interroger. « Le capitaine ?» demanda Gilbert. Le mousse fit un signe dans l'entrepont et bientôt après, une voix partie d'en bas cria « Faites descendre !» Gilbert descendit. On le mena dans une petite chambre, toute construite en bois d'acajou et meublée dans la plus sobre simplicité. Un homme de 30 ans, pâle, nerveux, l'œil vif et inquiet, lisait une gazette sur une table d'acajou comme les cloisons. « Que veut monsieur ?» dit-il à Gilbert. Et Gilbert fit signe à cet homme d'éloigner son mousse, et le mousse partit en effet. « Vous êtes le capitaine de l'Adonis, monsieur ?» dit Gilbert aussitôt. « Oui, monsieur. »« C'est bien à vous alors qu'est adressé ce papier. » Il tendit au capitaine le billet de Balsamo. À peine eut-il vu l'écriture que le capitaine se leva et dit précipitamment à Gilbert avec un sourire plein d'affabilité « Ah, vous aussi, si jeune, bien, bien !» Gilbert se contenta de s'incliner. « Vous allez, dit-il, en Amérique. Vous partez, mais quand vous partirez vous-même ? Bien, dans 8 jours, alors. Que ferai-je pendant tout ce temps, capitaine ? Avez-vous un passeport ? Non. Alors vous allez, ce soir même, revenir à bord, après vous être promené de la journée hors de la ville, à Sainte-Adresse, par exemple. Ne parlez à personne. Il faut que je mange, je n'ai plus d'argent. Vous allez dîner ici, vous souperez ce soir. Et après, une fois embarqué, vous ne retournerez plus à terre, vous demeurerez caché ici, vous partirez sans avoir revu le ciel. Une fois en mer, à 20 lieues, alors, libre tant que vous voudrez. « Bien. Faites donc aujourd'hui tout ce qu'il vous reste à faire. J'ai une lettre à écrire. »« Écrivez-la. Où ?»« Sur cette table, voici plume, encre et papier. La poste est au faubourg, le mousse vous conduira. Merci, capitaine. » Gilbert demeuré seul, écrivit une courte lettre sur laquelle il mit cette souscription. « Mademoiselle André de Tavernet, Paris, rue Coquéron 9, la première porte cochère en partant de la rue Platrière. » Puis il serra cette lettre dans sa poche, mangea ce que le capitaine lui-même lui servait et suivit le mousse qui le conduisit à la poste où la lettre fut jetée. Tout le jour, Gilbert regarda la mer du haut des falaises. À la nuit, il revint. Le capitaine le guettait et le fit entrer dans le navire.